Bienvenue à Polysécure. Cet épisode, je suis avec Marie-Ève.
Bonjour.
Nous allons encore une fois aborder des sujets, ou des pas des sujets, mais des mots qui sont largement utilisés dans les médias par votre entourage que parfois vous avez peut-être un peu de difficulté à saisir la pleine portée. Donc, je passe à la balle à Marie-Ève pour amorcer les questions.
Oui, alors on voulait aborder un peu le sujet de l'action humaine parce que même si on se dote de tous les systèmes les plus puissants et les meilleurs en matière de sécurité informatique, il reste qu'il y a beaucoup d'actions et de conséquences qui sont déclenchées par l'humain. Donc, premièrement, là, c'est important qu'on prenne conscience des informations qu'on a à protéger. Nicolas Lay, qu'est-ce que tu veux discuter un peu de ce sujet-là?
Ben, l'aspect qu'on voit le plus régulièrement, c'est le phishing, les courriels ou l'usage de moyens de communication pour tromper la personne et la faire croire qu'elle est ailleurs. Le plus grand classique, puis j'imagine que tout le monde a déjà vécu ce qu'on appelle la fraude nigérienne, c'est la réception d'un courriel d'un riche prince nigérien qui veut nous donner des millions. Parce qu'il a découvert qu'il était parti de notre famille. Ça, c'est un vieux classique. On l'a tous vu. Maintenant, il y a des variantes, mais c'est la base sur laquelle les gens vont malheureusement se laisser tromper, vont se laisser avoir par quelque chose qui est un peu trop beau que le réel. Donc, à la base, c'est un peu la façon que cela est formulé. On a aussi des variantes maintenant sur le téléphone. On se fait appeler. On a des croisières dans les Caraïbes. On a différents éléments comme ça, en termes de où la beauté est trop grande, ou ce qu'on voit peut-être plus récemment, dans mon cas, ce que j'ai vécu, c'est soit des appels téléphoniques, soit des courriels plus hostiles dans ce cas-ci, qui appellent un autre, qui interpelle quelque chose d'autre chez l'humain, c'est-à-dire que la peur. Soit on se fait dire qu'il y a un agent du revenu, un agent de la GRC, quelque chose comme ça, qui va venir nous saisir dans les prochains jours parce qu'on a quelque chose qu'on n'a pas fait au niveau fiscal, au niveau fédéral. Ce qui est étonnant, c'est que ces messages-là sont généralement en anglais. J'en ai pas eu en français. Je ne sais pas toi, Marie-Ève.
Il y avait une fraude téléphonique en français, là, que quelqu'un qui faisait passer pour un membre du gouvernement là, qui demandait des renseignements personnels ou de l'argent dans l'instant qui suivait parce qu'il y avait des situations urgentes, tout ça. Donc, il y a quand même des situations en français que j'ai entendu parler là, dans mon entourage.
Dans le plus récent, en termes de surtout francophone, c'est quelqu'un qui est gravement malade, qui a besoin d'argent pour le sortir du pétrin, puis la personne, en plus, t'interpelle comme si tu la connaissais. C'est ça qui est troublant parce que la façon que le message est monté, autant au verbal qu'à l'écrit, parce que je l'ai vu dans les deux cas, on a l'impression que c'est un ami proche qui est en Afrique. Tu sais pas pourquoi tu as un ami proche en Afrique, que tu n'es pas au courant. Mais ça, bref, ça vient contourner toutes tes mesures de contrôle dans ton cerveau. Puis là, tu fais comme « Ah, j'ai un ami proche. » Puis tu ne viens pas poser des questions sur le fait « Pourquoi j'ai un ami proche qui est en Afrique? » Mais bref, ça vient comme tromper tes mesures de défense naturelle. Puis c'est tout là où jouent les malveillants, c'est de réussir à tromper ça. Fait qu'effectivement, le cas du genre, j'ai un rein qui est malsain, j'ai besoin de me faire opérer rapidement, j'ai un problème de santé grave, peux-tu m'aider, et c'est là où l'aspect humain, où là on doit voir une alerte, peux-tu m'envoyer des cartes Xbox, peux-tu m'envoyer des cartes iTunes, peux-tu m'envoyer des cartes Amazon pour me permettre de transférer cet argent-là. Fait que c'est là où on peut quand même détecter pour le moment, parce qu'ils vont évoluer, une arnaque. Parce que sinon, si quelqu'un qu'on connaît, on se connaît un peu, si je t'avais du jour au lendemain, peux-tu m'envoyer des cartes Amazon, tu serais un peu suspicieuse de mes intentions, puis tu serais comme, ouais, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu t'es mis en Afrique dans cette situation-là avant même de penser à m'envoyer l'argent?
Mais oui, effectivement, là, c'est important, en fait, de questionner qu'est-ce qu'on reçoit comme information, les interlocuteurs qui nous interpellent. C'est important de se demander est-ce que cette personne-là a vraiment besoin de ma date de naissance, de mon adresse, de mes informations bancaires. C'est peut-être pas des informations qu'ils ont besoin ou qu'il faut nécessairement donner. Fait qu'il faut quand même douter de qu'est-ce qui est demandé, mais surtout la source, parce que les sources officiels, le gouvernement, les choses comme ça, vont toujours avoir soit une adresse certifiée, mais vraiment sans faute d'orthographe. Des fois, on voit ça aussi.
C'est effectivement une stratégie. Les fautes d'orthographe sont un bon signe qu'on est en train de se faire avoir, autant en français qu'en anglais. Pour moi, les malveillants se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils rehaussent leur français ou leur anglais. Ils ont dû s'acheter Antidote ou quelque chose comme ça. Puis, de façon générale, c'est un peu plus sophistiqué. Par contre, même en tant que Québécois, la façon qu'on utilise le français est différente des Français de France. Et de toute apparence, les fraudes en français sont vraiment dirigées vers les Français. Fait que même encore là, il y a un vocabulaire en tant que Québécois qui est un peu différent de ce qu'on utiliserait, qui serait une capacité de détecter. Mais cela étant dit, là, on s'en vient dans un degré de sophistication très élevé en termes de détection. Si vous n'attendez pas, puis la règle générale, si vous n'attendez pas un courriel, vous ne savez pas que vous avez un petit-fils qui est en Afrique, vous ne savez pas qu'il y a un petit-fils en Asie qui est dans une drôle de situation ou machin, ça serait étonnant que vous en ayez vraiment un qui soit dans cet état-là. Au minimalement, retracer l'origine, parce que, puis là, on en parle de façon un peu plus désinvolte. Il y a vraiment des personnes qui se font avoir, il y a vraiment des personnes qui envoient 20, 40, 60 000 $ Puis c'est jamais, malheureusement, des personnes dans des situations précaires, ou en tout cas plus précaires, qui vident leur fonds de pension, par exemple, pour répondre à ce genre de demande-là ou qui les mettent dans des situations très, très hasardeuses. Si vous avez un doute, informez-vous, questionnez. Ça, c'est très, très important.
Puis il y a aussi des courriels qui sont vraiment très bien faits. Là. Moi, j'en ai reçu souvent là, de Netflix qui sont bien faits. Puis que vu que j'attends, comme tu dis, j'attendrai pas de courriel de Netflix, j'ai pas changé mon compte récemment, j'ai pas changé rien sur mon compte. La communication semble un peu moins formelle qu'à l'habitude. J'ai pas ouvert le courriel parce que ça pourrait être tout ce qu'on a parlé dans le dernier épisode des virus, des vers, des rançons du ciel. Là. Toute cette belle gang-là. Donc, il y a toujours un risque à cliquer sur un courriel. Donc, on n'est pas certain de la provenance. Mais puis, il y a Netflix. Ça pourrait être quelqu'un qui veut imiter Desjardins, d'autres grosses compagnies comme ça aussi. Fait que ça a une renommée qui vient avec ça. Fait que des fois, on est tenté de cliquer dessus.
Ouais, tu as sincèrement raison. Puis, toute cette vague-là de fraude qui est typiquement par des courriels qu'on pourrait s'attendre, pas une fraude dans laquelle nous faire penser qu'on a un petit-fils perdu qui est malheureux. Dans le cas où des grandes corporations, effectivement, Netflix en est un, Post Canada en est un autre, Amazon en est un qui est excessivement utilisé, et d'autres que de courriels de cette nature-là, dans lesquels ils nous disent on a un colis qui attend, on a une intervention à exécuter, des choses comme ça, pour finalement se rendre compte qu'en bout de ligne, toute cette manœuvre-là, elle est faite pour nous tromper et venir nous soutirer de l'argent, ou de l'information, puisque maintenant, un ou l'autre, c'est à peu près la même chose. Et ça, ils vont compléter, ils vont venir nous frauder, mais d'une façon ou d'une autre. Ils viennent malheureusement nous chercher. Fait qu'être suspicieux si, effectivement, comme tu dis, tu n'as pas changé rien dans ton Netflix. Il n'y a pas de raison de recevoir un courriel. Le conseil qu'on peut donner en ce sens-là, c'est se connecter sur le site de la compagnie qui nous sollicite. Si c'est Netflix, branchez-vous sur Netflix, allez vérifier. Si sur Amazon, puis là, moi, la classique Amazon, elle est facile parce que j'ai un compte sur lequel je reçois mes Amazon. Puis ce compte-là, c'est le seul où je reçois d'Amazon. Fait que si je reçois du contenu Amazon ailleurs, de facto, je sais automatiquement que ce n'est pas censé. Puis si vous êtes capable de faire l'exercice, puis c'est quand même un exercice qui est exigeant, d'avoir un compte spécifique juste pour Amazon, un compte spécifique juste pour Netflix, faites-le parce qu'à ce moment-là, ça va vous aider à savoir que le courriel qui arrive de Netflix en dehors de ce compte-là n'est pas légitime parce qu'ils sont censés arriver que dans une seule et même boîte. C'est ardu. J'en conviens que ce n'est pas nécessairement un minimum d'effort, mais on est dans un univers, si on veut protéger, il faut malheureusement mettre ce niveau d'effort-là. Le plus proche qu'on peut arriver de choses intéressantes, c'est Apple offre un service d'anonymisation des courriels quand on s'inscrit à des sites comme ça, qui est à explorer. Mais encore là, ça exige une certaine dose d'effort et de mise en place qui peut-être... Il faut prendre le temps.
C'est vraiment intéressant comme façon de faire, effectivement, d'avoir une adresse courriel pour chaque plateforme en ligne qu'on utilise. C'était un très bon truc. Puis on est peut-être pas encore rendu là, mais peut-être qu'on va l'être bientôt pour tout le monde, que ça va devenir une normalisation. Là. Donc, ça bouge tellement vite que les risques ils grandissent vite aussi. Donc, ça reste quand même une très, très bonne idée. Puis pourquoi on veut protéger nos données, c'est parce qu'il peut avoir des conséquences quand même désastreuses pour beaucoup de gens. Donc, ça serait quoi les pires choses qui pourraient arriver, par exemple, si quelqu'un a accès à notre compte Netflix ou accès à notre compte Desjardins? Peut-être qu'on pourrait en discuter un peu.
Ben, Desjardins, là, c'est imminent parce qu'on peut se faire voler tout le contenu de notre compte. Si c'est un compte Netflix, dans ce cas-ci, ben, il va de la revente. On se retrouve sur le dark web, qu'on aura l'occasion de parler dans un autre épisode, mais ces données-là sont colligées par les malveillants, sont faites partie de bundles qui sont revendus. Il y a des bundles Netflix, on peut acheter 500 000, 100 000 comptes Netflix qui ont été piratés. Et dès lors, à ce moment, les gens peuvent consommer dans notre compte. C'est sûr qu'à sa face même, c'est pas si grave que ça, un compte Netflix. Par contre, si on a des comptes plus limités, puis ça peut arriver qu'il y a des gens qui ont des comptes, le compte de base, qui a juste une ou deux streams en même temps. Fait que s'il y a quelqu'un d'autre qui consomme notre stream Netflix, ben là, nous, on se trouve pénalisé. Puis même Netflix peut intervenir sur chose et bloquer littéralement notre compte dans des circonstances où il soupçonne un usage malicieux, ce qui crée une certaine forme d'irritation à l'usage, parce que quand j'écoute Netflix, je veux m'installer et écouter Netflix, ça ne tente pas de passer une demi-heure, une heure à essayer de réactiver mon compte parce que j'ai malheureusement quelqu'un qui l'a utilisé de façon malicieuse parce qu'il a été revendu dans le marché noir, parce que, ainsi de suite, puis parce qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir notre mot de passe. L'autre axe à ça, c'est que généralement, puis ça, shame on you, ne jamais réutiliser le mot de passe. Parce que si un site se fait casser, comme Netflix, ou si vous êtes tombé dans un piège qui fait que vous divulguez vos informations Netflix, puis tout le monde peut tomber dans ce piège-là, même les experts en sécurité peuvent tomber dans les meilleurs pièges qui sont là, puis c'est pas un fait que vous êtes une personne mal informée, même les experts, puis les plus... Il y a des tests qui ont été démontrés à ce niveau-là, fait qu'ils sont vraiment très bien faits, fait qu'on en tombe tous. Fait que, assurez-vous de cloisonner vos environnements au même niveau des courriels, comme mentionné. Si vous avez un courriel pour Netflix, un courriel pour Amazon, un courriel pour Post Canada, dans le même genre, vous devez avoir un mot de passe pour chacun de ces trois-là. Ce qui fait que si vous avez le malheur d'avoir un cas où vous êtes Netflix se retrouve être piraté, de votre faute ou pas, parce que ça peut arriver aussi soit à la faute d'un tiers, que Netflix est fuité ou peu importe, ben votre compte Amazon et votre compte Post Canada ne sera pas compromis en même temps. Donc, le problème que vous allez avoir à ramasser ce défi-là sera un minimum. Puis pour avoir vécu, en termes de j'ai eu quelques cas de piratage de compte sur les miens, mineurs, mais quand même, j'ai quand même dû passer quelques heures à résorber ça. C'est encore pire si votre compte bancaire est touché. Vous en avez pour des jours, c'est pas des semaines à essayer de ramasser le gâchis que ça cause. Et il n'y a pas tant de monde que ça qui ont ce temps-là à passer à essayer d'appeler leur banque, corriger, faire valoir leur cause, dire que les dépenses qu'ils ont faites n'étaient pas les leurs, et ainsi de suite. Donc, c'est très important d'avoir minimalement ce cloisonnement-là pour s'éviter des problèmes et de ne pas avoir à payer les frais. Puis, dernière chose avant de te relancer la parole, Amazon est un véhicule financier important au même titre que les banques. C'est-à-dire que si vous perdez le contrôle de votre compte Amazon, vous perdez la capacité de transférer de l'argent, vous transférez des achats qui peuvent être faits à votre nom, et ainsi de suite. Donc, pensez-y dans la mesure où vous avez le fun d'avoir Amazon a aussi des choses qu'on doit faire attention.
Il y a aussi la notion de la réputation web. Par exemple, quelqu'un pirate notre compte Netflix, je dis vraiment n'importe quoi, là, mais quelqu'un pirate notre compte Netflix, puis il voit vraiment tout ce qu'on a vu. Puis exemple, qu'il y aurait des contenus controversés accessibles sur Netflix, ben là, quelqu'un dirait « Hey, t'as regardé ça, ça sort sur la place publique, blablabla, mais c'est pas toi qui l'as regardé, c'est quelqu'un qui a pris ton compte, accès à ton compte, puis qui a regardé ça sous ton nom. » Ben, tu sais, il y a quand même des notions d'informations qu'on veut qui peuvent se ramasser sur le web, qui c'est pas vous finalement, c'est quelqu'un qui a pris votre identité, fait tout ce qui est réputation, maintenant qu'on le veuille ou pas, ça devient quand même important dans tout ce qui est la sphère publique.
Tout à fait, puis ça, il y a plusieurs axes associés à ça, qui sont d'ailleurs très intéressants, très intéressants, façon de parler, pour que vous devez vous intéresser, pour protéger. La réputation, oui, parce que là, tu parlais de Netflix, mais c'est pas tout à fait. Ce que là, c'est que quelqu'un ramasse l'information sur toi et peut le réutiliser contre toi ou utiliser une plateforme pour y dévier de l'information qu'il y a sur. Parce que Netflix a quand même. OK, il n'y a pas d'éléments très, très audacieux. Il n'y a pas de la grosse pornographie sur Netflix. Mais il y a quand même un certain nombre d'informations sur Netflix dans lesquelles on peut consommer qui, dans certaines sphères ou dans certaines préoccupations des gens, peuvent être troublantes ou peuvent être dérangeantes selon leur niveau de sensibilité, malgré le fait qu'il n'y a pas d'éléments très, très, très importants. Fait que ça vient changer ces informations-là. Ils peuvent être réutilisés contre ces personnes-là pour contre eux, essentiellement, et populer ces gens-là. Netflix, c'est un cas. C'est pas le plus grave de la gang, parce que si tu écoutes des documentaires sur le végétarisme, ça ne viendra pas énormément causer de préjudice à ta vie, puis ça va juste faire que tes bodies qui mangent que de la viande vont rire de toi. Fait que le dommage, somme toute, est relativement limité. C'est quand les comptes Twitter, Facebook, LinkedIn sont pris en contrôle, ou c'est juste dans ces comptes-là, puis j'en ai un déjà, moi c'est mon compte Instagram qui a été hacké, a été pris en charge, ce qui peut être diffusé sur ces comptes-là vient nuire effectivement à ta réputation numérique, ce qui fait qu'ils peuvent diffuser. Puis est-ce que le temps de s'en rendre compte, le temps d'agir, le temps de nettoyer ces affaires-là, c'est du temps. Puis c'est effectivement, c'est très, très dérangeant. Et dans un univers où maintenant les employeurs qui le disent ou le disent pas vont aller fouiller dans les Facebook, dans les informations publiques qui sont disponibles, dans les Twitter, parce que Twitter est fondamentalement public comme plateforme, vont reprendre les tweets qu'on a dit et contre nous. Donc, tous ces éléments-là, s'ils sont en dehors de ce qu'on veut contrôler du message qu'on envoie, peuvent nous nuire en tant que personne, puis nous nuire énormément en tant que personne, et ensuite l'amalgame qui en est faite. Puis ça, puis là, faire une autre partie très intéressante, il y a des courriels qui sont utilisés pour faire peur aux gens, dans lesquels ils disent qu'ils vous ont filmé dans un moment que vous ne voulez pas qu'on vous filme et qu'on diffuse. Fait qu'on voit à quel point cet espace privé est effectivement privé et à quel point les malveillants l'utilisent contre les gens et leur faire croire que, s'il vous plaît, ne faites pas de gestes que vous pourriez regretter devant une caméra, devant un ordinateur ou peu importe, justement pour ne pas vous mettre dans une position comme celle-là. Sinon, mettez-vous jamais... Faites pas ça ou ne partagez pas d'informations ou d'images compromettantes de cette façon-là.
C'est très drôle, je me souviens, j'avais déjà reçu un courriel là, qui disait exactement ça en anglais, puis c'était sur mon ordi de travail, que j'étais seulement au travail, je l'amenais pas chez moi, fait que c'était impossible, mais c'était quand même très drôle que tu sais, tous nos collègues avaient reçu ça, puis que tout le monde laissait leur ordinateur là on se regardait, puis on se disait « c'est qui le coquin? » Mais sans blague, ça arrive quand même souvent, ce type de courriel-là.
Oui, puis les gens vont, justement les malveillants vont utiliser ces choses-là. Fait que c'est un bon rappel que c'est... Ne faites pas de choses privées devant votre ordinateur avec une caméra qui est disponible devant vous. Puis ça, dans un univers de télétravail dans lequel on est, puis ça se multiplie, ce qui fait que, est-ce que votre ordinateur de travail est dans votre chambre à coucher? Est-ce que votre ordinateur de travail est dans un milieu commun de votre maison? Est-ce que vous êtes sûr que la caméra n'est pas ouverte? Est-ce que vous êtes sûr que le micro est fermé? C'est des questions très importantes, un peu à l'écart, parce qu'on va vraiment discuter du télétravail dans un épisode entier, parce que c'est quand même un sujet en soi complet. Mais dans un contexte où ça peut fuiter, c'est très intéressant de se poser cette question-là, parce que ça peut causer justement des éléments nocifs à notre réputation.
Ah, effectivement, oui, certaines situations pourraient être très embarrassantes pour un grand nombre de personnes. Puis certaines personnes vont mettre un tape devant leur caméra quand ils ne l'utiliseront pas. Ils vendent des espèces de petits glissoirs aussi en plastique là, pour tout ce qui est électronique. Mais il ne faut pas oublier de prendre ça en considération parce que oui, effectivement, il y a toujours moyen de prendre accès à distance à une caméra d'un laptop. Donc, de mon côté, je pense qu'on a fait quand même un beau survol de l'action humaine. Donc, peu importe les systèmes, faut pas oublier d'être vigilant, faut pas oublier de questionner dans cette, qu'est-ce que les informations qu'on reçoit, puis les des sources qui proviennent aussi. Donc, soyons vigilants et soyons informés sur les risques liés à la fraude et au phishing. Nicolas Lay, qu'est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais ajouter?
Non, ben effectivement, tu as bien fait un tour d'horizon de ce qu'on a abordé. Encore une fois, on a fait vraiment juste un tour d'horizon. On n'est pas allé dans des sujets très spécifiques. On fait appel à votre curiosité et à vos questions pour savoir s'il y a des sujets spécifiques que vous voulez qu'on approfondisse, parce qu'il y en a une multitude. Et j'aurais tendance à me perdre. Je fais attention pour ne pas me perdre dans les dédales d'un des sujets, parce que je suis passionné par ce genre de choses-là, puis ça, je suis très, très curieux. Donc, posez vos questions, ça va nous aider à orienter nos questions. Les questions de Marie-Ève, qui va être porteuse de vos questions dans ce contexte-ci. Soyez prudents, parce que le malheureusement, les gens certains ne veulent pas votre bien, ou peut-être les veulent justement à votre bien, mais pas celui qu'on veut, ce qu'on pense.
Bon, sur ces belles paroles, on vous dit à la prochaine. Bye, là!
Bye, là!